On sait tous que l'immobilier est un des leviers les plus puissants pour développer son patrimoine. Et l'achat-revente est une des stratégies qui permet d'obtenir des résultats potentiellement considérables. On en parle avec Sylvain lors de l'épisode 60 sur l'activité de marchand de biens. Et aussi, on organise un live exclusif ce jeudi 2 mai à 20h. Alors si tu veux y participer, je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Tu trouveras un lien dans les notes de cet épisode et toutes les informations sur leBonFlip.com/live. Et je te laisse maintenant découvrir ce nouvel épisode.
Ce que je pense, c'est qu'on est arrivé dans une ère où on va dans une banque pour prendre le service qui marche bien. Et le service qui marche pas bien, on le prend ailleurs. Voilà. Et on est multibancarisé. Une société non cotée, normalement, sera un peu plus pointue, un peu plus précise sur ce qu'elle fait, et on aura un investissement qui fait plus de sens. En fait, ce petit détail est très, extrêmement important, et c'est ce qui fait vraiment que cette enveloppe est particulièrement intéressante et efficace, parce que c'est ce qu'on appelle sauvegarder la poudre sèche, hein, en termes d'ici. Et donc, finalement, c'est un système particulièrement intéressant pour les investisseurs de long terme. Donc, on a intérêt à faire monter cette connaissance dans le marché du long côté. Moi, je trouve que cette classe d'actifs fait beaucoup de sens, et en plus, c'est de loin la plus rentable.
Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission, je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go !
Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Clément Francôme sur le podcast de La Bonne Fortune où on va parler de l'investissement dans l'économie réelle, dans des prises de participation, notamment dans des titres non cotés, donc l'investissement dans des PME, et cela notamment à travers un véhicule d'investissement, un véhicule fiscal qui peut être vraiment très intéressant pour l'investisseur, en général, qui est celui du PEA-PME. Cette émission va être vraiment intéressante pour les particuliers qui souhaitent une nouvelle fois diversifier leur patrimoine, comprendre un peu certains mécanismes, mais également pour tous nos amis partenaires, on va dire banquiers institutionnels, qui vont peut-être y trouver également une solution intéressante à proposer pour leurs clients. Salut Clément.
Bonjour, merci.
Merci à toi d'être là. On fait cette émission, on est pas loin l'un de l'autre, on le fait quand même en visio, donc on est du côté de Lille, au nord de France, là où tu es, toi situé. Est-ce que en quelques mots, tu peux te présenter, dire ton parcours, etc. Donc je le rappelle, tu es le fondateur et donc le CEO de UtoCat. Voilà, donc je te laisse en dire un petit peu plus sur tout ça.
Fantastique, merci. Du coup, Clément Francôme, je me présente. Je suis, d'ailleurs, j'ai eu mon diplôme à Lille également, à Polytech Lille. Donc moi, j'ai un parcours où j'ai travaillé 4 ans dans les grands groupes. J'étais développeur, j'étais ingénieur système, et puis je suis devenu directeur informatique de 3 filiales chez Safran. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Je trouvais que j'avais du mal à accomplir ma mission. Je manquais souvent de moyens ou de liberté dans l'idée d'améliorer comment la société dans laquelle j'étais fonctionnait. Et puis, j'ai vu la technologie blockchain apparaître devant mes yeux en 2013. J'ai commencé à me renseigner. J'ai fait un test. Je me suis dit, tiens, je vais essayer un peu de voir comment ça marche. Et puis, ça a été un peu l'élément déclencheur. J'ai trouvé cette technologie suffisamment passionnante pour que mon appétence pour l'entrepreneuriat que j'avais en sortie d'école ressurgisse de nouveau. Et puis, en fait, je me suis lancé dans l'aventure UtoCat à ce moment-là. C'est un peu ça le point de démarrage. Je me suis dit, tiens, il faut vraiment que ce sujet, je m'y mette à fond. Ça a l'air gros, il y a l'air d'avoir quelque chose à faire. Je ne savais pas encore quoi. à ce moment-là. Mais j'avais décidé de me lancer. Du coup, je me suis mis à temps plein sur le sujet. Donc, à titre perso, on va dire que j'ai de l'appétence voilà, pour les sujets nouveaux, passionnants. C'est vrai que la blockchain est un sujet de passion en général. Voilà, je suis un peu tombé dans la marmite de la blockchain quoi, en 2013.
C'est super, on y reviendra un petit peu plus, même sur cette technologie qui est passionnante. On avait fait un superbe épisode avec Stanislas Barthélémy de Blockchain Partner, l'épisode 9, c'était plus axé dédié sur les NFT, mais où on évoquait notamment cette technologie. Et donc, chez UtoCat, en quelques mots, qu'est-ce que vous proposez? Quel est un petit peu le fond de votre solution? On y reviendra, et même pour celles et ceux qui nous écoutent jusqu'au bout, on a cru comprendre que vous proposiez en ce moment une levée de fonds. On pourra y revenir en fin d'émission pour celles et ceux qui souhaiteraient éventuellement voilà, vous accompagner. Mais est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire, donc on voit ce parcours entrepreneurial, cette appétence pour la technologie d'une façon générale et la blockchain en particulier. Et donc chez UtoCat, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi votre solution?
Donc, dans cette continuité, j'ai voulu investir dans des sociétés non cotées. J'avais envie de tirer profit de ce que je voyais autour de moi qui semblait être compatible. Et j'avais trouvé le plan épargne-action de ma banque intéressant. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais investir dans un projet qui me passionne. Pas forcément beaucoup d'argent. À l'époque, je crois que ça devait être 1000 euros, voilà. Et puis j'ai fait la démarche, c'est-à-dire que j'étais voir mon banquier, j'ai dit voilà, je voudrais investir dans, je me souviens même plus du projet d'ailleurs, c'était un projet de membrane pour filtrer de l'eau, je crois. Et puis je vais voir mon banquier et il me dit non mais attendez, c'est quoi le code ISIN quoi? Le code ISIN, déjà je savais pas ce que c'était qu'un code ISIN. Et en gros il était en train de me dire que si j'avais pas une entreprise cotée en bourse, lui il comprenait pas qu'il était objet de ma demande. Bon, du coup, on ne se comprenait pas, quoi. Et j'ai dit, non, mais attendez, a priori, on peut mettre ça dans le PEA, quoi. Et puis, donc, voilà, c'était une histoire un peu longue, administrative. On ne se comprenait pas bien, et puis il y a eu pas mal d'échanges et tout. Et à ce moment-là, les délais étaient un peu courts, donc j'ai renoncé, en fait. J'ai trouvé que c'était vraiment pas possible. Donc, j'ai eu une mauvaise expérience. C'est-à-dire qu'à la fois, je faisais face à une personne qui ne savait pas de quoi je parlais. Je pensais qu'un banquier savait tout en finance. Pour moi, c'était un présupposé personnel. Peut-être que j'en attendais trop de la personne en question. Je me disais, c'est bizarre, le PEA, il connaît pas, pourtant, c'est lui qui le distribue, enfin, je crois. Hein. Et du coup, je me suis dit, mais mince, c'est bizarre quand même, ça se trouve, c'est juste mon banquier ou juste ma banque, quoi. Et puis, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, on me dit, ah oui, oh là là, ce sujet, oh là là, et tout le monde. Donc, j'en ai parlé, à une plateforme de crowd à l'époque. Mon premier investissement, c'était chez WeSeed. Donc, j'en parle à WeSeed. Ils me disent, oh là là, c'est l'enfer, vraiment, c'est compliqué. Bon, le moins on fait, mieux on se porte. J'en parle à d'autres banques, d'autres banquiers qui me disent, oh là là, c'est compliqué quand même. Puis je me dis, il y a peut-être un truc à faire. Quoi. Et puis, on a creusé ça avec UtoCat. Et puis, on s'est dit, ok, effectivement, il y a un problème. Comment on peut le résoudre? Donc, on a développé un logiciel. Et alors, la particularité de ce logiciel, c'est de s'adapter concrètement à l'opération de non-coté. Et donc, c'est une particularité qui a pris du temps à se développer. C'est là où on a dû investir pas mal. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui met en relation tous ceux qui sont partie prenante de l'opération non cotée. Donc, on a bien sûr nous tous, l'investisseur. Ensuite, on a l'entreprise dans laquelle on investit, parce qu'en fait, elle va découvrir assez vite que la banque va lui demander de signer des papiers, elle aussi, même si ce n'est pas sa banque, à l'entreprise. On a parfois le banquier dans l'opération. On a le back-office régional, bien souvent, de la banque. Et enfin, le back-office national. Et donc, voilà, il faut vraiment toutes ces personnes-là dedans, puisque toutes ces personnes vont être sollicitées par l'opération. Donc, notre logiciel, déjà, met en relation toutes ces personnes. synchronise, c'est-à-dire on organise, on dit, bah voilà, là, c'est le moment de collecter, je sais pas, la lettre d'intention, ça peut être parfois la carte d'identité, ça peut être tous les documents qui sont requis pour faire une opération en PEA, donc statut, CABIS, le RIB de l'opération quand on fait une augmentation de capital, ça peut être un ordre de mouvement si jamais en fait on a racheté ses parts à quelqu'un d'autre, plutôt que de participer à une augmentation de capital. On peut placer des obligations aussi dans le PEA PME, mmh. qui sont issues de plateformes de crowdfunding. Donc là, bah, c'est le contrat obligataire qu'il faut fournir. Bon, je passe un peu dans le détail, mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir un logiciel qui soit capable de traiter ce type d'opération. Et quand on se lance, on a une vision sur la finalité. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, ça va prendre... Enfin, il faut donner ça comme élément et c'est tout. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, mais dans une banque, quand on demande quelque chose, on demande un papier, puis un autre, 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 puis c'est de la signature, de la date, du « Ah, au fait, il fallait que le premier papier corresponde au dernier en termes de date. »
Exactement, on le voit très très bien dans ce que tu expliques. Du coup, c'est vrai que lorsqu'on souhaite faire une prise de participation dans le non-coté, et j'en suis le bon exemple également moi-même, dès lors qu'on veut le faire intégrer cet investissement dans un PEA, voire PEA-PME, ça peut être vraiment, en deux mots, vraiment très galère, quoi. Et à travers tout ce que tu dis, donc l'administratif, etc., les allers-retours, des documents avec la banque, avec l'entreprise, etc., tout ce qu'on doit fournir. Et in fine, bien souvent, à l'image de ta première expérience malheureuse, ben, les délais sont tellement longs que ben, le deal, entre guillemets, se clôture, etc. Et puis, entre guillemets, on loupe le train et on ne peut pas participer à cette prise de participation dans laquelle on aurait souhaité rentrer, et notamment à travers ce véhicule. Donc, vous, en deux mots, vraiment pour synthétiser, tu me corriges hein, si je me trompe, mais vraiment, votre solution UtoCAD, c'est de permettre de faciliter, on va dire, aux banquiers au sens large et aux entreprises également qui souhaitent lever des fonds, de faciliter tous ces échanges administratifs pour faciliter le travail des uns et des autres et, in fine, gagner du temps pour tout le monde. C'est bien ça.
Oui, tout à fait, et rendre l'opération possible parce que sinon, on abandonne en fait. Quand ça dure des mois et des mois, il y a un moment, on s'arrête. Nous, le record, c'est 23 minutes, voilà, pour faire un dossier de ce type-là.
D'accord, 23 minutes au lieu de, concrètement, en temps normal, une semaine, deux semaines, trois semaines.
En temps normal, en moyenne, on se situe entre trois semaines et un mois.
C'est vrai que sur notre dernière prise de participation, dans une boîte, on est plusieurs investisseurs, à peu près 80, et chacun est passé un petit peu par différentes banques. Alors autant avec certaines banques, ça s'est très très bien passé tout de suite, etc. Mais autant avec d'autres, c'était une galère et même une impossibilité en fin de course de le faire rentrer dans le cadre du PEA-PME. Et in fine, les personnes comme moi ont dû passer en direct, ce qui a des conséquences en bout de chaîne. On reviendra un petit peu sur ta solution puis sur la technologie de la blockchain parce que c'est une technologie qui m'intéresse fortement. Mais donc là, donc on a compris, donc l'idée c'est d'investir dans des boîtes non cotées, donc qui n'ont pas forcément, voilà, qui sont pas forcément référencées sur le CAC 40, qui sont pas forcément en bourse sur les grandes places de marché. Et pourquoi on aurait intérêt de le faire dans le PEA PME, c'est quoi l'avantage de ce véhicule fiscal? Est-ce que tu peux en dire un petit mot dessus? On a déjà abordé le PEA dans une émission avec Étienne Monceau sur l'investissement en bourse. Donc le PEA PME, je pense, reprend l'ensemble un petit peu des avantages du PEA, mais permet donc d'investir vraiment, encore une fois, dans l'économie réelle et donc dans ces entreprises non cotées. Est-ce que tu peux un peu développer cette enveloppe et quels avantages auraient les investisseurs, les particuliers comme moi, comme d'autres, à l'utiliser?
Le PEA-PME, ce qui va le différencier du PEA, déjà, c'est que c'est une enveloppe complémentaire, c'est-à-dire que ça fait à peu près exactement ce que fait le PEA. Il y a juste des restrictions, il ne faut pas que les entreprises soient trop grandes pour rentrer dedans. Et il y a aussi une augmentation, c'est-à-dire que dedans, on peut mettre une obligation. Alors que dans le PEA classique, on ne peut mettre que des actions. Donc voilà un peu ce qui les distingue de loin, on va dire. Je reviens un peu sur les avantages du PEA ou PEA-PME en général. Donc, ce qu'on note en priorité, ce qui est attractif, c'est la fiscalité. Donc, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value qu'on va faire sur nos titres. Par contre, on paye quand même la CSG. donc les 17,2%, ils seront quand même là à la fin. Mais en fait, le plus intéressant dans cette enveloppe, qui fait d'elle probablement la plus optimale d'un point de vue fiscalité, c'est que quand on investit, il y a un moment, bon, ben voilà, on reçoit des bénéfices, quoi, on fait un peu de plus-value, voire du dividende. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas prise de fiscalité ni de CSG. Donc, on peut réinvestir intégralement le produit de notre cession sans aucune fiscalité. Donc, en fait, on peut investir et réinvestir un peu à l'infini, quoi, sans payer quoi que ce soit. C'est vraiment à la fin, quand on va retirer le cash, que là, on va payer. Et en fait, ce petit détail est extrêmement important et c'est ce qui fait vraiment que cette enveloppe est particulièrement intéressante et efficace, notamment pour des business angels de taille modeste, voire quand on commence à mettre des tickets de l'ordre de 20 ou 50 000 euros, ce qui, bon, se l'espère tous, à un moment, ça arrive peut-être. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on appelle sauvegarder la poudre sèche, hein, en termes VC. Le dry powder, quoi. Vraiment, le fait d'être business angel à 10 000 ou à 30 000, ça change tout. On a un rôle différent dans l'entreprise. On peut être plus encore proche de l'équipe fondatrice parce que mettre un ticket à 1 000 euros, forcément, ça nous éloigne, quoi. On n'est pas vraiment au cœur du sujet. Et si parfois on a des projets qui nous passionnent, nous intéressent, avoir un ticket un petit peu plus important, notamment en évitant la fiscalité, en tout cas temporairement, eh ben c'est un changement de statut. Et finalement, voilà ce que peut permettre le PEA, c'est de changer de statut, quoi.
D'accord, ouais. Donc pour reprendre sur les points seulement de la fiscalité, donc on n'a pas d'impôt, on a simplement la CSG, donc aujourd'hui, ou les prélèvements sociaux, aujourd'hui à 17,2%. Lorsqu'on retire les fonds, et donc on est imposé sur la partie de la plus-value, donc à 17,2%, et ça, donc, c'est au bout d'un délai de 5 ans, hein, par contre, de détention du PEA. Mais par contre, le gros avantage, comme tu dis, pour sauvegarder la poudre sèche, j'adore cette expression, c'est que tant que les fonds restent à l'intérieur de cette enveloppe, on peut faire l'acquisition de titres, éventuellement les revendre, en percevoir des dividendes, etc. Lorsque tous ces fonds ils restent dans cette enveloppe, il y a 0,0 imposition. Donc, on peut sauvegarder la poudre sèche et vraiment faire grossir cette boule de neige. Il n'y a pas de frottement fiscal et donc les éventuels 30% si on est à la flat tax ou éventuellement les 17,2 si on sort du plan, ben là, on n'y est pas soumis, ce qui permet de réinvestir avec une force de frappe, entre guillemets, un peu plus importante et bénéficier d'autant plus des, entre guillemets, des intérêts cumulés d'une certaine façon, quoi.
Oui, c'est ça vraiment qui est très intéressant. Et bon, si jamais vous faites de la moins-value, ça arrive, ben, l'idée c'est que vous avez investi la part d'impôt et de CSG au passage et vous l'avez perdu et les impôts aussi. Donc finalement, l'État est un petit peu avec vous dans cette opération. S'il veut gagner ses 17,2 un jour, il a plutôt intérêt à ce que vous réinvestissez de plus en plus parce que les intérêts cumulés lui-même, il va avoir de l'impôt sur ça, enfin de la CSG en l'occurrence. Et donc finalement, c'est un système que je trouve particulièrement intéressant pour les investisseurs de long terme. C'est vrai que le plan déjà nous destine à être relativement long terme parce que 5 ans, c'est quand même un horizon d'investissement. Voilà, on ne fait pas du day trading, on ne va pas acheter et revendre dans la journée. Donc 5 ans, c'est déjà pour annoncer que l'horizon d'investissement va être assez long. Mais 5 ans, en fait, c'est assez court en investissement de long terme. C'est vraiment le minimum pour être considéré long terme. Et de mon point de vue personnel, le long terme, c'est le seul endroit où on gagne vraiment beaucoup d'argent. Et ce n'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas, c'est une conséquence fréquente. Et finalement, les 5 ans, je trouve que c'est un message qui est plutôt bien. Avant, c'était 8, maintenant, c'est 5. C'est un message qui est plutôt bien de se dire on se prépare, ça va être 5 ans et peut-être plus. Et puis une fois qu'on a goûté à l'investissement sur 5 ans, qui bon parfois dure 10, c'est un peu l'occasion de recommencer. Donc soit on est au sein de la même enveloppe, soit on sort et on s'arrête. C'est vrai que la durée de 5 ans était bien calibrée.
Donc typiquement, pour prendre un exemple, quelqu'un investit 1 000 euros aujourd'hui dans une entreprise, 5 ans après, il a la possibilité de sortir parce que l'entreprise est valorisée 10 fois plus. Donc, il récupère, disons, 10 000 euros, donc avec une part de plus-value de 9 000. Donc, s'il perçoit ses 10 000 euros dans ce PEA, encore une fois, il peut réinvestir dans une nouvelle boîte, dans plusieurs, etc. Et vraiment faire aller la machine. Ou alors, s'il veut sortir qu'une petite partie parce qu'il a besoin pour, je sais pas moi, faire un voyage, s'offrir des vacances, financer les études de ses enfants, etc. Il peut sortir qu'une petite partie sur lesquelles sera imposé donc les 17,2. Et donc, voilà, c'est vraiment pour bien imager, bien comprendre. Donc, le PEA-PME, à l'image du PEA, on peut en avoir qu'un seul par personne physique. Donc, les deux peuvent se cumuler, les deux peuvent être dans le même établissement, dans un établissement différent.
Effectivement, l'avantage désormais du PEA, PEA-PME, c'est qu'on peut tout mettre dans le même établissement. Et là, l'établissement va contrôler les seuils des deux enveloppes et s'assurer que le plafond global est bien respecté. Si jamais on met son enveloppe PEA dans une banque et le PEA-PME dans une autre banque, là, ça revient à nous, individus, de s'assurer qu'on ne dépasse pas les plafonds globaux. Donc là, il faut être un peu vigilant quand même. Et puis, il y a une autre particularité du PEA-PME qui est intéressante. Avant, c'était une enveloppe un peu solide, c'est-à-dire que soit on la cassait, soit on ne la cassait pas. Voilà. Maintenant, à partir de 8 ans, si je ne dis pas de bêtises, on peut sortir de l'argent sans bloquer le PEA, et j'ai l'impression que les politiques ont tendance à fluidifier cette enveloppe et la rapprocher un petit peu de l'assurance vie qui, elle, est très fluide. On peut rentrer et sortir quand on veut, et ça pourrait être intéressant comme système, parce qu'au Canada il y a l'équivalent, ça s'appelle le CELI, C-E-L-I.
D'accord.
C'est une enveloppe ultra fluide, on peut rentrer et sortir l'argent quand on veut. Il y a juste la quantité maximum qui est définie et qui augmente d'ailleurs chaque année. Et voilà, peut-être qu'on pourrait en France aller doucement vers ce genre de plan. Ce serait pas forcément une mauvaise idée, parce que quand on a un sujet dans notre vie courante où on a besoin de cash, c'est toujours bien de l'avoir, quoi qu'il arrive, quoi. Se sentir bloqué, c'est pas forcément... Enfin, en France, on aime bien bloquer pour dire « Soyez bien conscient que c'est bloquant, il faut vraiment investir à long terme, c'est bloqué. Bon. » Mais bon, le fait est, c'est qu'on ne sait jamais, on a toujours besoin d'un petit 1000 euros par-ci, par-là, qui peut être nécessaire. Donc, c'est toujours plus rassurant d'avoir une enveloppe plus ouverte. Il semblerait qu'on se dirige doucement par là.
Et du coup, donc pour en revenir sur votre solution, le particulier, aujourd'hui, il ne peut pas faire appel à vos services. Si moi, demain, je veux faire une prise de participation dans une boîte qui m'intéresse, etc., que ce soit par rapport aux différentes plateformes de crowd equity que tu as citées, comme WeSeed ou d'autres, on pourrait citer peut-être Anaxago ou même Landosphère. J'avais fait un très bel épisode avec Laure Verag sur la transition énergétique. Si on veut faire une prise de participation, soit à travers ces plateformes ou même en direct, donc on va voir notre banquier et on lui dit il y a Utocad qui permet de faire toutes les démarches, en tout cas qui propose une solution qui permet de faire toutes les démarches en quelques jours, enfin, ou quelques heures, au lieu des 2-3 semaines, et je ne me retrouve pas bloqué. Comment on peut faire ?
Il y a deux modes de fonctionnement aujourd'hui sur ces plateformes de crowdfunding, avec notre solution notamment. Soit elle n'est pas connectée, et donc ils utilisent notre solution de façon naturelle, c'est-à-dire que la banque va leur envoyer des liens et elles vont pouvoir se servir de la solution automatiquement. Donc le point de départ, dans ce cas-là, l'investisseur va se tourner vers sa banque, demander un accès, et ensuite il va pouvoir mettre ses documents d'investissement crowdfunding. Dans le cas où la plateforme de crowdfunding est connectée chez nous sous forme d'API, alors dans ce cas précis, à la fin de son investissement, l'investisseur, en fait, ses documents vont être envoyés directement à la banque, le dossier va être créé automatiquement. Donc c'est vrai qu'on peut gagner quelques jours dans ce scénario-là. Ça peut permettre de gagner encore un petit peu de temps, et puis surtout de ne pas avoir à trop se préoccuper de comment ça fonctionne dans la banque. C'est automatique.
D'accord. Et donc certaines plateformes de crowdfunding travaillent avec votre solution intégrée et fait le boulot entre guillemets pour la banque, quoi, typiquement.
Effectivement, et puis voire même le boulot de l'investisseur, parce que bien souvent c'est l'investisseur qui doit faire le pivot, c'est-à-dire qu'il doit aller chercher les papiers dans la plateforme de crowd, les prendre, les télécharger, les donner à son banquier, le banquier qui lui donne un formulaire, donc il faut le remplir, et c'est l'investisseur qui le remplit. Donc là, bah, ça permet finalement de s'économiser du temps, nous, investisseurs, pour éviter de remplir des papiers plusieurs fois. Donc c'est grâce à ça qu'on peut le faire. Hein. Il y a Razers, par exemple, qui utilise notre API.
Il y a qui d'autre comme plateforme de crowdfunding, par exemple, qui utilise votre solution ?
Alors, en pratique, nous avons quasiment toutes les plateformes de crowdfunding qui utilisent notre solution, puisque par défaut, quand on crée un dossier dans Catalyzer et qu'il s'agit d'une plateforme de crowdfunding en face, un lien automatique leur est envoyé, ils reçoivent un mail en fait, et on crée un compte entreprise automatiquement.
D'accord.
Donc finalement, en gros, toutes les plateformes de crowd sont connectées, tous les fonds VC, et toutes les entreprises de mon côté également, puisqu'il s'agit d'un lien qu'on leur envoie.
D'accord, très bien. Et en termes d'instituts bancaires, etc., on peut voir sur votre site internet qu'il y a déjà quand même pas mal d'établissements qui vous font confiance. On voit le Crédit Agricole, donc il y a certaines caisses du Crédit Agricole. À l'heure d'aujourd'hui, par exemple, vous travaillez avec tout le monde au Crédit Agricole, toutes les caisses ou c'est en développement ?
Aujourd'hui, nous avons activé 5 caisses. 5 caisses, c'est un travail qui est en cours. Nous sommes en cours de discussion avec plusieurs organismes. Pour l'instant, je vais pas les nommer puisque c'est des discussions qui sont confidentielles. Tout ce que je peux dire à l'audience, c'est que les crédits agricoles ont compris l'intérêt de notre solution, en tout cas pour certains d'entre eux. Et puis, il y en a des démarches qui sont, on va dire, très prometteuses en ce moment. D'installation, de mise en service, parfois de test. Après tout, nous, on est également ouvert à prouver que ce qu'on fait fonctionne. On a fait une opération publique avec le CIC notamment. On a fait ce qu'on appelle un management package. Ça veut dire que on a des managers d'entreprise qui s'appellent SAMSE, S-A-M-S-E. Alors, SAMSE, c'est une entreprise cotée en bourse. Donc, on va se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait dans l'histoire ? Et bien en fait, leurs managers, désormais investisseurs, sont rentrés au capital, mais via une structure non cotée. C'est-à-dire qu'ils se sont regroupés dans une entreprise, et ensuite l'entreprise a investi dans SAMSE. Et comme la structure d'investissement intermédiaire est non cotée, ils sont passés par nous.
Et oui, d'accord.
Voilà, on a lancé l'opération, donc on a eu 140 managers qui ont investi en même temps, et on a traité les 140 dossiers en 5 jours, top chrono, tout compris.
Et ouais, super, ouais, ça fait rêver quand je repense surtout à mon expérience passée. C'est vrai, c'est intéressant. Donc tu as parlé donc certaines caisses du Crédit Agricole, donc le CIC, on voit également sur un site internet le Crédit Mutuel, la Caisse d'Épargne, BNP Paribas. En fait, nous investisseurs, on aurait peut-être potentiellement, après chacun est libre forcément de ses choix, mais venir peut-être pourquoi pas ouvrir un PEA PME dans une des structures qui mettent en place votre solution, si on veut faciliter les deals et la prise de participation au travers de ce PEA-PME avec simplicité et rapidité.
Ben c'est clair que si vous avez votre PEA dans l'une des structures partenaires, vos investissements peuvent prendre plutôt 23 minutes. Le délai moyen se situe aux alentours de quelques jours pour traiter un dossier. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces quelques jours, c'est parce que c'est votre premier usage et le premier usage du banquier. Et au deuxième usage, vous allez chercher plutôt moins de 24 mois.
D'accord, parce qu'il y aura déjà énormément d'éléments, en tout cas, par exemple, sur le entre guillemets, le KYC de l'investisseur. Et ça évite de refaire toute la paperasse en ce sens.
Il y a ça, et il y a aussi, vous serez habitué. Vous aurez fait une première opération, vous saurez déjà comment à peu près ça marche. Et donc, votre deuxième opération, nous, on a remarqué que nos primo-utilisateurs ont un délai moyen qui est plus long que les autres, évidemment. Mais le gain, l'apprentissage est très, très rapide chez nous. Dès le deuxième investissement, on atteint quasiment la vitesse maximale chez nos utilisateurs.
OK, d'accord. À titre d'exemple, vous travaillez avec des banques en ligne, etc. Peut-être Bourse Direct, Boursorama, d'autres.
On a des discussions en ce moment avec deux banques en ligne. Alors, c'est assez amusant. Alors, pas trop pour l'utilisateur final, mais les banques en ligne considèrent que leur expérience utilisateur est déjà maximale, est déjà très bien. Et donc, elles considèrent qu'une solution comme la nôtre est pas pour eux. Elles se disent, non, nous, on fait très bien les choses. On a une expérience utilisateur qui est impeccable. On n'a pas de sujet.
Alors que ce n'est pas forcément le cas pour l'avoir testé. Sur une des deux banques précédentes que je viens de citer, c'était une galère pas possible notamment. Et pour les 80 investisseurs sur la précédente opération, beaucoup sont passés par l'une des banques que je viens de citer en ligne et c'était vraiment une galère pas possible. Voilà, donc c'est vrai qu'ils ont peut-être un service client fort sur certains autres domaines, mais pas forcément au point sur l'intégration, en tout cas, du PEA-PME, la prise en compte de ce type d'investissement. Donc là, vous travaillez, tu peux pas citer de nom, j'imagine, que tu ne les cites pas sur les banques en ligne avec qui tu travailles.
Je peux citer les banques avec lesquelles on n'avance pas beaucoup. Celles avec lesquelles j'avance en ce moment, je vais pas les citer pour l'instant. Je sais que mes clients aiment bien rester discrets dans la période de mise en service. Et là, on est en mise en service avec l'une d'entre elles. Donc je vais citer celles qui pour l'instant ne manifestent pas d'intérêt. Donc on a Boursorama qui nous dit d'ailleurs Boursorama, très amusant, c'est grâce à eux que Catalyzer existe. En fait, on a travaillé ensemble, on a créé Catalyzer en se disant ouais, c'est une galère, waouh, on va le faire, on va le régler et tout. Puis une fois qu'on a créé Catalyzer, on nous dit super, merci, on va tout copier en interne. Ils sont incroyables.
C'est assez paradoxal en effet, oui.
Ils sont incroyables. Alors du coup, sur les autres banques, on a Bourse Direct pour l'instant qui ne manifeste pas beaucoup d'intérêt. On a Easy Bourse, la banque postale, qui manifeste pas beaucoup d'intérêt. C'est toujours ok, on verra ça l'année prochaine, quoi.
Bon, après, ils y viendront peut-être en voyant les concurrents peut-être développer ces services. Est-ce que, pour en revenir après encore une dernière fois sur le sujet des banques, tu penses que ça peut être quand même une bonne option de peut-être conserver quand même son PEA dans une banque, on va dire, traditionnelle, où ici, on est différents investisseurs avec une appétence, par exemple, pour l'investissement dans l'immobilier en direct? Ça peut être quand même intéressant d'un point de vue stratégique de conserver son PEA-PME dans sa banque traditionnelle, institutionnelle, pour peut-être donner un peu le change, jouer le jeu commercial de cette banque qui nous aurait peut-être accompagné sur des précédents projets ou qui pourrait potentiellement nous accompagner sur d'autres projets immobiliers. Est-ce que tu penses que ça peut être intéressant ou alors les frais prélevés sont tellement exorbitants pour les banques physiques traditionnelles qu'il vaut mieux se tourner sur une banque en ligne? Quel serait ton avis, toi, là-dessus?
Je vais commencer par le discours des banques, et puis après, je vais élaborer mon avis. Donc, les banques nous disent toujours, que ce soit en ligne ou ailleurs, mettez tout chez moi, et puis peut-être que plus tard, vous aurez des avantages. Bon, en tout cas, ils affirment qu'on aura des avantages. Dans la pratique, quand j'ai fait mon crédit immobilier, par exemple, qui est un moment fort de vie, normalement, j'ai pas senti cet avantage particulièrement. Donc, du coup, moi, ce que je pense, c'est qu'on est arrivé dans une ère où on va dans une banque pour prendre le service qui marche bien, et le service qui marche pas bien, on le prend ailleurs. Voilà. Et on est multibancarisé, et je pense que je trahis aucun secret que les personnes de mon âge ou ma tranche d'âge ou équivalent à mon niveau de vie sont comme ça. On va prendre le bon service dans la bonne banque, et puis c'est, on va dire, une très bonne démarche. Parce que ça demande de l'excellence. Et demander cette excellence au prix de s'en aller, c'est comme ça que, en fait, les services vont s'améliorer. Donc, moi, à titre personnel, je dirais qu'il faut forcément chercher le meilleur service. Pas forcément le moins cher, parce que, en fait, jusqu'à présent, on a cherché à avoir du moins cher parce que le service était tellement médiocre qu'on se disait, bon, bah, c'est tellement nul qu'en fait, autant prendre le moins cher. Mais finalement, moi, je commence à voir apparaître des banques qui ont des services qui sont vraiment pratiques et des banques tradies. Hein, par exemple, LCL. Ils ont une interface en ligne en ce moment qui est quand même bien, quoi. Alors, certains services qui sont pas au même niveau, mais... Donc, du coup, je dirais que comme les banques tradies aujourd'hui s'équipent d'un PEA non coté extrêmement moderne, bah, pourquoi pas finalement considérer avoir un PEA chez elles. Après tout... moi qui fais quasiment que du non coté, du coup ça fait totalement sens, alors que ma banque en ligne, je suis peut-être mieux ailleurs, tout simplement parce que elle répond plus à mes standards de rapidité, de connectivité simple, de pas avoir 30 000 trucs qu'il faut taper tout le temps partout, et puis que ça déconnecte en continu, enfin ça c'est fini ça. Donc Ouais, je pense qu'il faut prendre les meilleurs services là où ils sont. C'est vraiment la seule façon, à la fin, d'avoir des services financiers qui sont bons partout, quoi.
On vit dans une ère où on a cette possibilité, avec l'accessibilité Internet, les solutions même de la blockchain, on y reviendra juste après, qui nous offre des possibilités en deux, trois clics de son canapé pour pouvoir voir justement avoir accès à ces différents services de qualité et in fine à des opportunités qu'on n'aurait pas eu peut-être si facilement il y a 10, 15, 20 ans. Tu parlais tout à l'heure de la blockchain, donc la technologie sous-jacente à votre solution, donc Catalyzer. Qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui à cette solution? Est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur cette technologie qui est passionnante? Pour rappel, la blockchain, donc par exemple, on parle beaucoup, on associe beaucoup la blockchain avec le Bitcoin qui a fait émerger un petit peu cette technologie aux yeux un petit peu du grand public, et moi-même en premier lieu, il y a quelques années maintenant. Qu'est-ce que ça t'apporte, la blockchain, dans tes services aujourd'hui?
Pareil, j'ai connu la blockchain par Bitcoin, parce que c'est quand même, je trouve que c'est une porte d'entrée naturelle de démarrer par là, au moins de s'y intéresser, au moins de se documenter. Néanmoins, dans le cas de nos services aujourd'hui, en tout cas à destination des banques, on utilise Ethereum. On n'utilise pas Bitcoin. Alors, plusieurs raisons. Déjà parce que technologiquement, c'était plus adapté à ce qu'on voulait faire. Je vais y revenir. Et puis, en France, il y a un gros mot Bitcoin. Donc, si on veut pas fâcher les banques, on n'utilise pas Bitcoin. Voilà. Ni à titre perso, ni à titre pro, ni à titre de quoi que ce soit. Sous peine, si vous lisez l'actualité des banques, de se faire fermer ses comptes bancaires complets, quoi. Perso, pro, tout. Bon, voilà, on a trop. Donc, sinon, sur la technologie, donc, nous, on utilise Ethereum. Mm-hmm. Et donc, Ethereum, leur concept, c'est de devenir une machine monde. L'idée d'Ethereum, c'est de pouvoir proposer des programmes extrêmement sécurisés qui vont pouvoir s'exécuter de façon parfaitement maîtrisée. Donc, je trouvais la promesse très intéressante. Et donc, on s'est dit chez Utocat, OK, comment on peut réutiliser cette façon de faire? Quel est l'avantage et l'intérêt de le faire dans le cadre de notre service à nous? Donc, c'est une technologie qu'on appelle plutôt back-office, c'est-à-dire que c'est des technologies qu'on ne voit pas, mais qui viennent apporter un lot d'avantages qui se voient pas, mais qui néanmoins sont très importants de disposer. Donc, nous, on parle de vitrification, c'est-à-dire de sécurisation totale des documents. Une fois qu'on a eu notre expérience client avec notre technologie RPA, Robotic Process Automation, s'il y a un tech dans la salle, ça s'appelle RabbitMQ chez nous. Donc, on a une technologie de message automatisée qui permet d'avoir l'expérience que j'ai décrite tout à l'heure pour aller de bout en bout, du client jusqu'au back-office de la banque, en passant par l'entreprise. Eh bien, une fois qu'on s'est tous bien mis d'accord et qu'on a bien signé tous nos documents, dans la partie où on va passer en archivage, en fait, nous, on va en tirer une preuve numérique de tous les documents qu'on a fait, et on va stocker la preuve dans la blockchain. Donc, pourquoi faire ça exactement? Eh bien, ça nous permet à nous, à nos clients, à nos partenaires, de s'assurer que personne n'est en capacité de toucher les documents. Grâce à cette technologie, on va garantir que le document est parfaitement fiable. Il est parfaitement fiable maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans. Si jamais on a le malheur d'avoir un contrôle fiscal, grâce à ça, on est absolument, totalement certain que tout est clean. Et cette certitude, dans l'univers bancaire dans lequel on est, on passe d'un papier que les banques perdent, ça arrive, et donc quand on transfère un PEA vers une autre banque, ce papier perdu entraîne la clôture du PEA avant même qu'il soit transféré. C'est un vrai problème fiscal notamment. Et donc grâce à notre technologie, ça n'arrivera plus. Pour le bien de tout le monde, de l'investisseur, de la banque, voilà. Donc la technologie blockchain chez nous, c'est ça, c'est de la certification. Ça permet de s'assurer que on a parfaitement confiance dans l'opération, qui n'a pas l'air d'une opération blockchain. Hein, on est dans du PEA de nos côtés. On n'est pas dans l'univers des tokens, etc. Mais c'est la même technologie, c'est juste qu'on l'utilise pour certifier.
C'est une grosse, en quelque sorte, une grosse base de données, mais ultra sécurisée du coup.
Totalement.
On peut l'imaginer un petit peu comme ça.
Et une base de données qui est disponible, qui est là, on peut s'en servir, on peut payer à l'usage. C'est vraiment pratique comme technologie.
Super intéressant. À titre personnel, donc là, on a vu oui, l'univers du non-coté. Pourquoi, à tes yeux, c'est intéressant de se projeter sur cet univers pour l'investisseur plutôt que de faire, je ne sais pas, moi, acheter une action en bourse 4,40 ou acheter du Bitcoin? Quel intérêt, à tes yeux, l'investisseur aurait à participer à du non-coté, donc à travers le PEA-PME ou en direct ou avec une société? Après, il utilise le véhicule, on va dire, de son choix, mais à la racine, pourquoi on aurait un intérêt à investir dans des boîtes comme ça, des PME, des ETI non-cotées?
Peut-être un petit mot de vision de Utocat en introduction de la classe d'actifs que je vais évoquer. Chez Utocat, on se dit que c'est important que les opérations de non-coté se fassent à peu près aussi rapidement que celles de bourse, c'est-à-dire moins de 1 ou 2 jours pour exécuter son opération. Donc chez Utocat, avec notre solution, on va être en capacité d'avoir un réseau de la finance qui soit capable de faire du non-coté en moins d'un jour. Ça, c'est l'horizon, c'est-à-dire qu'on aimerait aller par là progressivement, et on met tout en œuvre pour arriver vers cette vision. On en reparlera après avec notre levée de fonds, par exemple. Et donc, à titre perso, en termes de classe d'assets, moi, je trouve que la bourse, c'est pas mal. La performance moyenne globale, elle est de quoi? D'à peu près 7%. Et puis après, évidemment, il y a des deltas. Donc, 7%, c'est déjà pas mal, hein. Moi, je suis équipé d'assurance vie grand public. Franchement, si je dépasse les 4%, c'est pas mal. Donc, le non-coté, c'est quoi comme univers? C'est un univers où, premièrement, on va commencer par le fondamental. La société dans laquelle on investit, normalement, on comprend un peu mieux ce qu'elle fait qu'un très grand groupe coté qui aura des activités tellement variées qu'on aura du mal à toutes les comprendre, en fait. Donc, une société non-cotée, normalement, sera un peu plus pointue, un peu plus précise sur ce qu'elle fait, et on aura un investissement qui fait plus de sens. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on investit dans une entreprise non-cotée, on aide un projet qui est encore fragile, peu mature, à pousser et devenir peut-être un standard, quelque chose de plus gros. On participe activement, pas forcément avec nos petits bras ou nos heures, mais en tout cas avec notre argent, à son développement. Et c'est aussi une composante de sens, de dire je participe de façon indirecte à quelque chose, quoi. Bon. Et puis le dernier point, c'est la rentabilité. Moi, à titre perso, en termes de renta sur le non-coté, je dois être aux alentours de plus 50% de perf par an en TRI moyen. Je sais pas pour vous, mais moi je considère que c'est pas mal, quoi. Et du coup, au-delà de faire beaucoup de sens, c'est-à-dire que moi je prends même carrément du plaisir à me dire waouh, c'est génial, j'aide un truc, et puis en plus, c'est la classe d'actifs la plus rentable que j'ai jamais vue. Alors évidemment, si on met toutes ses billes dans une seule boîte et que les promesses sont pas atteintes pour des raisons qui peuvent être très bonnes, on peut tout perdre. Donc, c'est quand même une classe d'actifs dans laquelle il faut la fameuse diversification qu'on entend normalement à tout bout de champ. Moi, je suis actionnaire dans 30 boîtes non cotées. Et je trouve cette classe, je trouve personnellement cette classe d'actifs fait beaucoup de sens. Et en plus, c'est de loin la plus rentable. Alors, il y a un petit sujet de liquidité. C'est-à-dire que l'argent investi dedans n'est pas vraiment disponible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm-hmm. Mais pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens.
Ok, oui. Donc, on comprend mieux ce qui s'y passe. On peut avoir un impact réel au développement d'une boîte ou d'un secteur qu'on aime, et donc avoir un impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. Il y a des rendements qui potentiellement peuvent être très, très intéressants si on fait les choses de façon peut-être un peu diversifiée, etc. Et voilà. Par contre, en contrepartie, bon, il y a quand même du risque. On peut perdre même la totalité de son capital, tu l'as évoqué. Il y a l'illiquidité. Toi, sur les 30 projets, par exemple, à titre personnel que tu as investi, est-ce que tu vois une durée moyenne minimum de détention, des horizons de sortie? Est-ce que tu sais faire à peu près une moyenne avec tout ça? J'imagine que c'est très disparate entre tous les projets. Mais Est-ce que tu pourrais donner un petit horizon si on investit dans une boîte? En tout cas, de ton expérience sur ces 30 boîtes, tu ressors au bout de combien de temps?
Je peux donner une moyenne qui est de la fameuse 5 à 7 ans. Le truc, c'est que ça va quand même dépendre à quel moment dans la vie de l'entreprise on arrive. Si c'est le tout premier tour, si c'est le 2, le 3e tour. Et ensuite, ça va dépendre de la typologie d'activité de l'entreprise. Il y a des entrepreneurs qui se positionnent sur un segment proche d'être mature. Et ça m'est arrivé, une société dans laquelle j'investis, au bout d'un an et demi, pouf, elle se fait racheter par quelqu'un d'autre. Donc là, un an et demi, c'est très court en fait. Mais j'ai quand même fait, je crois, x2 dans mes souvenirs. Donc c'est bien. C'est bien. J'ai une autre boîte qui s'est fait racheter en 3 ans. Et c'était pas prévu.
D'accord.
Un partenariat qui s'est trop bien passé, en fait. mais c'est bien pour la boîte, c'est bien pour le projet. Hein. C'est vraiment une belle histoire, en fait. Et ensuite, il y a des sociétés dans lesquelles c'est un peu comme la nanotechnologie, quoi. C'est le truc qui prend vraiment 30 ans. Donc là, j'essaie de ne pas investir dans un truc à 30 ans, mais il y a des projets, on va dire, deep tech. Des molécules de médecine, des choses comme ça. Bon, là, on sait que ça va être long, donc on s'y prépare. Quand on se dit, OK, bon, là, c'est plutôt 10 ans, quoi. Puis des fois, des projets qui devaient prendre que 3-4 ans, qui en prennent 10, parce que c'est comme ça. Ça peut être finalement le marché qui était pas si mature ou qui était proche d'être mature et puis qui stagne. Et en fait, voilà. Bon. Et il faut quand même rester parce que sinon... on ne pourra pas tirer les fruits, quoi. C'est-à-dire que la plus-value va être faible et puis le projet ne va pas être très mature, ce n'est pas très sympa, pas très intéressant. Donc, là, du coup, moi j'ai tendance à rester parce que je me dis, c'est comme ça, j'ai pris mon risque, je le prends jusqu'au bout, quoi. Après, tu disais qu'il y avait une perte en capital potentiel. C'est sûr qu'en non-coté, quand ça ne marche pas, c'est très vite zéro quand même. Donc, on passe de 1000 à zéro, par exemple.
Tu as eu des mauvaises expériences en ce sens? Ou d'autres mauvaises expériences à titre personnel?
Je dirais pas mauvaise expérience, je dirais que j'ai fait 100% de moins-value. quand j'ai investi, je savais que c'était une possibilité. Sur mes 30 investissements, par exemple, il y en a 3 où je suis en train de faire une moins-value 100%, quoi, ou 95%. Quoi. Donc, ça arrive, j'ai 10% de mes invests là qui sont cramés. C'est la vie, hein. De toute façon, c'est extrêmement compensé par ceux qui arrivent. La perf moyenne, elle est quand même là. Je dirais qu'en bourse, on n'est pas spécialement à l'abri non plus que ça se passe aussi mal, hein. En bourse, hein, moins 50%, moins 70%, ça peut arriver. Et finalement, on n'est pas très très loin du moins 95% que je fais avec le truc, hein. Donc voilà, je dirais que l'upside, le risque de gagner beaucoup, Je le trouve beaucoup plus élevé en non-coté. Et le downside, le risque de perdre, il est finalement pas si éloigné de la bourse. Voilà.
D'accord, oui. En prenant des dispositions, encore une fois, de diversification, d'investir dans plusieurs projets, de ne pas mettre, comme on dit typiquement, tous ses œufs dans le même panier. Avec quelques règles de bonne conduite, on peut se prémunir de grosses désillusions et donc amortir son risque et maîtriser son risque et in fine faire de belles choses. À titre perso, toi, tu as plutôt une approche quand tu investis dans les boîtes à vouloir t'investir de façon opérationnelle, ou alors est-ce que sur certaines, parce que j'imagine que tu ne peux pas être au four au moulin sur les 30 projets, est-ce qu'il y a certaines où tu es bien content de juste donner le coup de pouce financier et que ça te va très très bien comme ça? Parce que les investisseurs, celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pareil. On est tous très très bien pris, avec une vie de famille pour beaucoup, des loisirs, un travail prenant, etc. Et on ne peut pas forcément s'investir en plus dans le projet. Déjà, on n'a pas forcément les connaissances, les compétences, les capacités pour apporter une vraie plus-value. Et en plus, le temps qui nous est limité. Comment toi, tu gères tout ça à titre perso?
J'aime bien mon sweet spot, vraiment le projet que j'aime bien, le projet moyen, voilà. C'est un projet dans lequel je donnerais un micro coup de main, peut-être 2, 3, 4 fois par an. Le fondateur m'appelle ou son équipe, peu importe, Moi, je suis pas vexé hein, si c'est quelqu'un d'autre que le fondateur qui m'appelle. Voilà, tel sujet, t'en penses quoi? Tac, je déroule ce que j'en pense. Ok, on repose quelques questions, on fait une sorte de brainstorm de, ça peut être 15 minutes, ça c'est plutôt rare, 1 heure, plutôt courant, parfois 3 heures. J'espère que c'est rare parce que avec la famille à cette heure-là, c'est voilà. Voilà, j'aime bien donner des coups de pouce ponctuels. J'aime pas trop m'engager, c'est-à-dire faire partie d'un board régulier. J'aime pas trop. J'aime bien m'engager à répondre sur mon expertise. C'est-à-dire que on me pose une question blockchain, je répondrai avec plaisir. On me pose une question sur l'architecture logicielle, un modèle économique en SaaS. Ok, je suis content d'y répondre. On me demande mon avis sur la meilleure molécule biotech. Bah franchement là, j'ai pas très envie de répondre quoi. Donc moi j'aime bien apporter ce que je sais. Si on me pose une question, j'y réponds. Mais voilà, ça c'est mon sweet spot. Après, il y a quelques projets où ma présence était plus demandée ou plus critique. Je suis dans le board de boîtes qui ont eu besoin de moi pour des raisons très variées. Mais ça touche à mon expertise blockchain, c'est-à-dire il y en a une, c'est un quasi-fonds d'investissement. Et donc, bah, la partie blockchain, le point de vue sur la valorisation, les tokens, etc., elle est valorisée, même carrément valorisée d'un point de vue capitalistique, quoi. Donc là, je me fais un peu payer pour mon expertise. Et puis de l'autre côté, j'ai une expertise de stature, c'est-à-dire que je représente l'expertise blockchain de la société. Elle avait besoin d'une caution technique et donc
D'accord.
j'analyse et je donne mon point de vue pour le donner.
On va revenir juste après là sur la levée de fonds que vous initiez en ce moment pour UTO4. Mais juste avant, donc on a vu que personnellement tu avais donc cette appétence réellement pour l'investissement à titre personnel dans le non-coté. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs? Tu peux nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu investis, que tu aimes, tu as un coup de cœur, peut-être certainement les crypto-monnaies, je serais tenté de supposer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu investis dans l'immobilier, dans l'or, la bourse, d'autres choses?
Ok, avec plaisir. Donc, jusqu'à il y a 2 semaines, j'avais pas d'action d'entreprise cotée en direct. Là, je viens d'acheter de l'OVH. Donc, ça a été l'occasion de me servir de mon PEA d'ailleurs pour des actions cotées, ce qui est très rare chez moi.
D'accord.
En l'occurrence, tellement rare que c'est jamais arrivé. C'est mon premier achat coté. À part ça, donc je suis, oui, j'ai acheté quelques crypto actifs. Par exemple, je suis primo investisseur dans Ethereum. Ça veut dire que je fais partie du rang 1 d'investissement initial qui a eu lieu en 2014. Donc j'ai investi dans un gars qui avait des oreilles décollées comme ça avec 17 ans. Et c'était une folie furieuse, quoi. Enfin, ouais, quand je prends du recul, je me dis, waouh, c'est dingue. J'investis dans BAT, Basic Attention Token. Mes assets sont quand même, si je fais non coté plus crypto actif, je crois que ça représente, ouais, 98% de mon patrimoine, enfin, un truc comme ça, quoi. Ah oui, non, j'ai ma résidence principale, c'est vrai. Oui, ça fait un peu moins du coup. Et donc, sinon, bah, ma résidence principale, je la considère pas comme un investissement parce que je trouve qu'un lieu de vie, c'est pas un investissement. Je peux faire des dépenses dans mon lieu de résidence principale qui sont pas rentables et je m'en fiche en fait. Du coup, je la mets un peu de côté, ma RP. Et alors, le reste, bah, en ce moment, je suis en train d'essayer d'avoir un peu d'immobilier. Parce que je considère que comme j'ai un patrimoine très très non coté, très très risqué, je voulais venir équilibrer un peu mon patrimoine. Pour l'instant, j'ai un tout petit peu d'immobilier, j'ai de la pierre papier, de la SCPI. J'en ai un tout petit peu, j'espère augmenter un peu mon portefeuille histoire de rééquilibrer. Voilà, c'est en cours, quoi.
Ok, donc vraiment cette appétence pour l'univers entrepreneurial, donc dans le non-coté, et un peu aussi technologique avec ces crypto-actifs, avec notamment voilà, cette primo accession dans Ethereum 2014, qui aujourd'hui peu importe les montants qui étaient émis initialement, je pense que tu dois être assez satisfait d'un point de vue purement rendement financier. Tu es parti là-dessus sur les crypto-actifs vraiment parce que j'imagine encore une fois que tu étais fondamentalement convaincu par cette technologie blockchain d'une façon générale et des projets sous-jacents sur Ethereum, BAT, etc.
Oui, c'est la raison pour laquelle je garde mon investissement longtemps. C'est parce que j'y vais pour des raisons... alors déjà, j'y vais parce que je trouve ça intéressant, personnellement. Je trouve que c'est une sorte de façon de me former. Voilà. Mm-hmm. Ethereum, effectivement, je suis rentré à 0,25 euros. Et là, c'est à je ne sais plus combien, mais je crois qu'on est au-dessus de 3000 euros pièce. Quoi. Mm-hmm. Effectivement, en termes de pourcent de rendement...
On doit être à 4 000 $ à cette heure-ci, quelque chose comme ça.
Voilà, bon c'est pas mal. Quoi. En termes de pourcentage de rendement, on est bien. J'arrive même plus à faire assez de paquets de zéro. Sinon, moi, j'investis dans les classes d'actifs technologiques avant tout. Mon portefeuille de 30 boîtes, c'est à l'image d'OVH. Ce sont des actifs très orientés numériques. Parce que moi, en fait, ce que je comprends bien, c'est tout ce qui est à base de logiciels. Ça peut être appliqué à différents secteurs, medtech, biotech, etc. Mais il faut que le fondamental soit type logiciel, parce que sinon, je me sens pas à l'aise pour comprendre le sujet, quoi. Après, je considère que je comprends, j'apprends des choses, et puis je suis pas vraiment pressé. Je veux dire, je pense qu'un projet, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit vraiment mature. Et puis j'ai peut-être ce tempérament à titre personnel de patience qui fait que, c'est pas parce que ça fait 10% de plus-value que j'en suis satisfait, quoi. J'en suis satisfait plutôt quand le projet est mature et quel que soit le terri finalement. Et c'est cette approche peut-être qui me permet d'être un peu résilient quand le projet fait moins 90%. Parce que mon porte-monnaie, portfolio crypto, il a déjà fait 3 fois moins 90%. L'ensemble de tout ce que j'avais a déjà fait 3 fois moins 90%.
Et oui,
ouais. Donc il faut quand même être un peu accroché, quoi. Il faut quand même avoir une forme de détachement. Et comme je rentre pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'investissement, mais des raisons de connaissance, d'apprentissage, de participer à quelque chose, c'est peut-être ça qui me permet de passer correctement, assez sereinement ces périodes. Bon, la première fois que le moins 10%, moins 90 m'est arrivé, ça m'a quand même touché. Mais les 2 fois d'après, non. Ça m'était égal. Je me dis, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, c'est pas grave.
Ouais, bien sûr. Et puis j'imagine que le prochain beer market, en effet, au bout d'une fois, deux fois, trois fois, c'est sûr que tu es vacciné, tu as eu tes triples doses. Donc du coup, impeccable, tu combats bien l'affaire. Mais ok, super intéressant. C'est vrai que cette approche, un petit peu comme tout ce qu'on fait dans la vie, UtoCat, j'imagine que tu l'as développé et on va venir vraiment sur la levée de fonds que vous proposez. Mais... tu l'as développé avec, encore une fois, cette volonté d'aboutir vraiment à un résultat, d'aboutir à une solution de terrain, terre à terre, et le résultat financier est une conséquence, mais n'est pas un objectif en soi. Et c'est vrai que cette vision est réellement particulièrement intéressante. Et je pense que c'est une des clés, entre guillemets, d'un certain succès financier. Mais voilà, encore une fois, le résultat financier ne doit pas être spécialement l'objectif, mais voilà, vient être la conséquence de choix passés. UtoCat, vous faites une levée de fonds en ce moment. J'imagine qu'elle est accessible au travers le PEA-PME.
Alors, c'est même l'objectif. C'est-à-dire que là, on a fait une première levée. On avait levé 500 000 en 2016. On a fait une deuxième levée de 1,6 million en 2018. Donc, première levée, c'était pour établir notre technologie, mm-hmm. vraiment développer la partie blockchain de notre activité. 2018, ça a été pour faire un premier jet sur la technologie Catalyzer. Et puis, donc exclusivement avec des business angels, d'ailleurs, je précise.
D'accord.
Certains qui sont d'ailleurs membres de fonds d'investissement, qui sont partenaires en fait dans un fonds. Donc c'est assez marrant d'avoir les partenaires et pas le fonds d'ailleurs. Et puis là, on est arrivé et on s'est dit, le nom côté est en train de maturer. On a du caption.market qui commence à arriver. On a des plateformes qui permettent de rendre un peu plus liquide le nom côté. Et là, on s'est dit, c'est quand même un bon moment pour établir des partenariats. Et comme on est un socle technologique connecté aux banques, avec de la fiscalité quasi zéro, en tout cas temporairement, on s'est dit, si on pouvait connecter ça au reste de l'écosystème qui est en train d'arriver, ça pourrait vraiment faire un truc assez explosif, quoi. Donc on s'est dit, ok, ça va être le moment d'avoir besoin d'un petit peu de poudre sèche pour investir, quoi. Donc, on s'est dit ça. On s'est dit, ok, va falloir lever des fonds un peu classiquement. Puis après, on s'est posé un peu avec mon équipe, puis on s'est dit, mais attends, est-ce qu'on a vraiment besoin de fonds? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de partenaires ou de volume ou d'attractivité, etc. Et donc, c'est ce qui nous a motivés à faire une ouverture de capital type crowdfunding, c'est-à-dire ouverte à un nombre le plus grand possible. Et on s'est dit, bah attends, on va faire une pierre deux coups. On va proposer l'investissement dans Autocats, réservé, en tout cas au début, aux détenteurs de PEA ou PEA-PME. Alors, entre parenthèses, le compte-titres ordinaire et le plan épargne retraite, ça passe aussi. C'est juste que les avantages fiscaux sont différents. Et du coup, on a fait cette ouverture de capital réservée finalement à nos utilisateurs ou nos futurs utilisateurs dans l'objectif de créer une communauté, de rassembler toutes ces voix un peu disparses, un peu éparses, pardon, disparates ou éparses, qui forment cette communauté, les rassembler un petit peu, collecter toutes ces difficultés qui fait qu'on n'investit pas plus souvent, et alimenter notre produit et notre réseau catalyseur pour pouvoir le déployer, l'agrandir, et puis dans cet état d'esprit, bah, nous connecter au reste de l'écosystème, ça fait totalement sens. L'idée, c'était vraiment mettre davantage de sens dans notre activité, développer la solution, et puis il y aura toujours un peu l'exception à la fin, hein, je l'annonce direct, aux alentours de fin novembre, on va ouvrir le capital très ouvert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est réservé aux individus détenteurs de PEA, PME.
D'accord.
Et à partir de fin novembre, on va l'ouvrir à tous ceux qui veulent investir chez nous, parce que pour des raisons variées, des difficultés techniques, des transferts de PEA d'une banque à l'autre, c'est pas disponible. On voudrait pas que des individus qui pourraient vraiment contribuer ne puissent pas venir. Donc voilà, à la fin, on l'ouvrira.
Autocats, en quelques chiffres aujourd'hui, donc vous êtes basé sur Lille, vous êtes combien de collaborateurs, combien de partenariats, quel chiffre d'affaires peut-être faites-vous? Je ne sais pas si tu as quelques métriques comme ça à donner, quels sont les horizons. On a bien entendu la volonté de développer cette communauté, d'ouvrir au plus grand nombre, de donner la possibilité au plus grand nombre particulier d'investir en vous. L'objectif derrière, en soulevant ces fonds, c'est quoi l'objectif de la collecte et, en termes de montant et derrière en termes de résultats, à quoi ça va être employé, etc. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, ça fait beaucoup de questions en une, mais est-ce que tu peux voir un petit peu, détailler un petit peu plus ça?
Avec plaisir. Donc Autocat aujourd'hui, c'est une dizaine de collaborateurs. On a un focus plutôt tech dans nos personnes présentes. On a une grosse moitié de l'équipe qui est dédiée à l'acquisition de grands comptes, les banques. On a carrément un juriste à bord qui est en face des banques pour pouvoir faire nos différents contrats, puisque bon, les contrats, ça prend 2 mois, quoi. On avait environ 3 clients, parce qu'en fait, nos contrats groupes comptent pour un seul client. Donc, on avait 3 clients jusque-là, et cette année, on est passé à 9 clients.
D'accord.
Voilà. En termes de volumétrie, un peu de métriques opérationnelles, on était l'année dernière à 9,1 de satisfaction utilisateur, tout compris investisseurs, entreprises, banquiers. Là, on est passé à 9,5 sur 10.
Super.
Depuis l'historique, c'est-à-dire en incluant tous ceux qui ont voté 9,1, bah, entre deux, ça veut dire qu'on a, des scores bien, bien bons. 9,5 historique depuis l'aube des temps. Et puis, la volumétrie, donc il y a un an et demi, j'annonçais qu'on avait fait 30 millions d'opérations qui étaient passées dans notre solution. En mars ou en mai de cette année, j'ai un petit doute, on a annoncé avoir passé le cap des 100 millions. Et là, on va pas tarder à annoncer publiquement avoir atteint, bon là on est à 240 millions, donc on va peut-être attendre le 250 pour que ça fasse un peu rond, quoi. On est en train de passer le cap des 250 millions d'opérations, donc vous pouvez voir que ça grimpe fort, quoi.
Ouais, ouais, de façon un petit peu exponentielle, il y a cette courbe de croissance, en tout cas d'utilisation, qui est vraiment intéressante, en effet. Ouais.
Là, on part vraiment en exponentielle. En termes du chiffre d'affaires, là, on est aux alentours du 200-400 000 euros. Donc, l'idée, quand on signe un contrat avec une banque, on encaisse un certain montant tout de suite, qui sont les frais de mise en service, mais on ne va pas encaisser le maximum ou le potentiel maximum du contrat. Il va arriver un peu au fur et à mesure. D'où le fait qu'aujourd'hui, on soit entre 200 et 300 000 euros de chiffre d'affaires, puisque d'un point de vue comptable, c'est vraiment la facture qui compte, quoi. Néanmoins, comme on fait du crédit impôt recherche de façon très intense et qu'on a de plus en plus de clients qui signent en ce moment, on estime qu'aux alentours de fin de premier trimestre l'année prochaine, on sera donc rentable, en fait, tout simplement. À partir de ce moment-là, tout développement ultérieur sera du profit, du bénéfice. Donc, on rentre dans une période sympa où la courbe des revenus part en exponentielle et puis la courbe de dépenses est assez flat, quoi. Elle est assez linéaire et elle progresse pas très vite.
Ouais, ce qu'on évoquait avec Gabriel Jarrosson qui était venu donc faire un épisode pourquoi investir dans les startups américaines, mais il évoquait ça et ça marche très très bien avec les boîtes françaises également et Teucat. Et donc de ce que tu expliques, c'est qu'il y a quand même un certain point de traction aujourd'hui et donc une maturité assez intéressante qui fait que pour l'investisseur potentiellement ça peut limiter les risques. Alors forcément, là tu l'évoquais, c'est une troisième levée, donc il y a eu le seed, série A, et donc là on est sur une série B, donc sur une valorisation forcément plus importante que le seed, mais le risque est moins, et donc potentiellement ça peut être sécurisant quand même pour l'investisseur de rentrer aujourd'hui.
C'est un peu l'idée de donner accès à notre capital en troisième round à des tickets minimum de 100 euros, parce que là le ticket minimum c'est 100 euros. Avant, le ticket minimum, c'était entre 30 et 50 000 euros. Pourquoi ? C'est pour avoir une cap table qui était plus, qui était modeste, c'est-à-dire pas avoir trop de personnes en capital parce que c'est compliqué à gérer après en termes de décision. Mais là, comme on arrive dans une phase mature, on se permet d'ouvrir plus largement notre capital pour faire participer des investisseurs qui auraient envie de prendre un risque peut-être plus modéré, une histoire plus sèche, un discours et un parcours qui commence à être bien tracé. Ce qu'on vise aujourd'hui avec cette levée de fonds, c'est 24 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026. Donc, vous voyez, on démarre au niveau actuel. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher les 24 millions d'euros de chiffre d'affaires dans très peu de temps.
Super.
Et donc, c'est cette traction exponentielle qui va nous permettre d'y arriver, quoi.
Comment tu gères cette possibilité aux investisseurs de rentrer avec simplement 100 euros. Les objectifs de levée aujourd'hui, si tu as combien, tu vas pas faire rentrer 10 000 personnes avec 100 euros, j'imagine, au capital en direct. Comment tu gères ça? C'est quoi l'objectif de levée et comment tu gères ça?
Alors, pour cette prochaine phase de développement, il nous faut dans notre cap table, dans notre liste d'actionnaires directs dans l'UTOCAT, une restriction. On ne peut pas avoir des milliers d'investisseurs à notre taille de maturité actuelle, ou alors on serait en bourse. Donc, il a fallu qu'on utilise une petite astuce. On va créer une holding qui va contenir ces nouveaux investisseurs. Et là, ils vont pouvoir être des milliers s'ils le souhaitent. Notre objectif, là, c'est plutôt vers les 200 à peu près. Je pense que 200, c'est pas mal. Ça nous fait un ticket moyen 5 000 euros puisqu'on cherche environ 1 million d'euros via le crowdfunding. À titre personnel, je vais mettre 500 000 euros pour montrer que le stade de maturité est là, que personnellement, j'y crois. Hein, je ne mettrai pas 500 000 euros comme ça. C'est ça qui est proposé, c'est-à-dire qu'on va se regrouper dans cette holding qui s'appelle UTOCAT Invest. Cette holding UTOCAT Invest, elle va avoir un autre sujet, c'est qu'elle sera la cible de toutes nos innovations financières. Ça va être notre labo, en fait. Et donc, nos investisseurs vont aussi tester en prod, en live, nos innovations technologiques en priorité. Par exemple, on voudrait mettre en place une plateforme de liquidité qui permettrait à nos investisseurs de s'acheter et se vendre des parts entre eux.
D'accord.
Puisqu'on a toujours quelqu'un qui a besoin de liquidité. Et donc, l'idée, c'est de tester ça dans cette holding. Voilà, c'est un exemple. Hein. L'idée, c'est vraiment de construire une histoire ensemble avec nos investisseurs. Et en plus, bah, on se dit que comme on a la technologie qui va bien, la connexion avec les banques qui va bien, on peut carrément faire les tests sur notre propre communauté. Quoi.
Ouais, super intéressant. Donc, cette holding qui est créée spécialement dans le cadre de cet investissement qui permet d'accueillir 50, 100, 200, 300 ou 1000 investisseurs potentiellement. Et après, donc, cette holding qui investit, elle, directement, ce qui permet d'éviter d'avoir 300 personnes à la table. Donc, ça, OK. Et en plus, avec cette particularité, c'est assez intéressant ce que tu évoques, qui sera quand même avec un sens opérationnel pour le développement des services, des produits, avec cette fonction un peu bêta-testeur pour voir, et notamment sur cette solution où vous souhaitez donner de la liquidité dans l'investissement, ce qui est assez intéressant, parce qu'on le parlait, un des inconvénients, entre guillemets, de l'investissement dans le non-coté, c'est l'illiquidité. Et donc là, de permettre éventuellement à terme d'avoir une liquidité quasiment en direct, ça serait vraiment fantastique. Donc on peut investir en direct, avec les petits montants via le holding, on peut investir aussi en direct, j'imagine, à partir d'un certain ticket. Comment tu fais pour permettre cette solution à partir de 100 euros, on te contacte directement, tu passes par une plateforme. Bon, je crois connaître la réponse, mais je te laisse expliquer un petit peu.
Donc effectivement, la logique reste la même, c'est-à-dire que dans notre capital aujourd'hui, il faut vraiment mettre que des personnes très stratégiques pour notre déploiement, ou alors avec des tickets minimums correspondant à notre stade de maturité. Donc, je n'ai pas forcément de tickets réellement arrêtés, mais bon, l'ordre de grandeur, quand j'ai mentionné 50 000, c'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près l'ordre de grandeur auquel on s'attend pour investir en direct via la holding à partir de 100 euros. Donc, effectivement, pour ces 100 euros minimum, on a dû passer par un partenaire, WeSeed. Mm-hmm. WeSeed va nous permettre de gérer en fait 200, 300, peut-être 1000 souscripteurs parce qu'ils ont la technologie, l'expérience, le savoir-faire qui va bien.
Super, donc ce qui permettra à des personnes même comme moi, je viendrai volontiers participer à cette expérience via la plateforme WeSeed. Et l'objectif, vous souhaitez soulever, vous avez un montant que vous souhaiteriez soulever et sur une base de valorisation, tu peux nous en dire un peu plus ?
Tout à fait, donc ces informations sont disponibles dans la plateforme. Hein. C'est des informations, une fois que vous êtes connecté, vous y avez accès. Donc, l'idée, c'est de lever environ 2 à 3 millions d'euros. Il y aura une partie equity, une partie dette.
D'accord.
Donc, l'idée qu'on a pour l'instant, c'est environ 2 millions d'equity et environ 1 million de dette. L'histoire n'est pas encore tout à fait figée. Ça se figera au moment où on va arriver dans les phases de closing. Cette dette, elle est chez nous relativement facile à avoir puisque nos clients sont des banques. Et comme ils comprennent ce qu'on fait parce qu'ils sont aussi nos clients, la dette est un peu plus facile à obtenir. Après, ce qui va limiter, c'est notre statut de start-up. Donc, on a beaucoup d'investissements. C'est ça qui va venir plafonner. Mais sinon, à part ça, les banques sont très ouverte à nous financer, puis bien sûr BPI qui est quand même le premier financeur de France à mon avis sur ces sujets. Donc ces 3 millions d'euros vont nous permettre de développer les technologies que j'ai évoquées, technologie de liquidité, on va développer un back office spécial, un back office qu'on va donner au crowdfunding, au VC, tous ceux qui aurait intérêt à avoir une relation avec les PEA qui soit la plus fluide possible. Donc c'est un service qui va être disponible pour tous les PEA, c'est-à-dire toutes les banques de tout l'établissement, sous réserve que le non-coté soit compatible, hein, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a quelques banques comme Saxo Bank qui sont pas compatibles du tout avec le non-coté. Donc on va faire un back-office toute banque pour que les plateformes de crowd soient pas embêtées avec les banques qui ne sont pas encore nos partenaires. On va gérer le problème à leur place, probablement soit gratuitement, soit vraiment pas cher. L'idée, c'est de qualifier et développer notre propre marché en prenant les deux côtés de notre logiciel. Notre logiciel va faire les deux côtés, le back-office côté crowd et le back-office côté banque, pour inciter également les banques qui ne sont pas encore équipées à le faire. Parce qu'avec cette technologie, ce qui va se passer, c'est que les banques vont se taper 160 000 opérations supplémentaires par an, issues notamment du crowdfunding, et ces 160 000 opérations, aujourd'hui, elles ne sont pas capables de les traiter. C'est-à-dire que là, si on envoie le flux, elles vont être submergées.
Oui, tout à fait. Ouais.
C'est l'objectif de l'idée qu'on est en train de développer, c'est de faire prendre conscience aux banques que c'est bien un gros sujet, que la volumétrie, c'est ça. Et donc, du coup, s'équiper deviendra naturel avec nous ou sans nous. Des banques pourraient s'équiper toutes seules de leur propre solution. Après tout, pourquoi pas. Nous, notre volonté, c'est avant tout de dynamiser le non-coté parce qu'on se dit que de par notre position actuelle et notre relation à venir avec différents partenaires, on aura toujours une carte à jouer, une épingle à tirer de ce sujet. Donc, on a intérêt à faire monter cette connaissance dans le marché du non-coté. Pour rappel, la Banque de France fait des chiffres sur le non-coté. Ça s'appelle l'épargne des ménages français. Ouais. Banque de France, l'épargne des ménages français. Tous les trimestres, il y a une étude qui sort. Et le non-coté, le record, c'est 22 milliards investis chaque année dans le non-coté par des particuliers, je précise.
Ouais, ouais.
Ça, c'est des gros chiffres. C'est des chiffres qu'on parle rarement. Ce qui est connu aujourd'hui, c'est le petit milliard d'investis dans les plateformes de crowdfunding. Elles font à peu près 1 milliard par an d'investissement, ce qui est déjà exceptionnel.
Oui, en forte croissance également. Ouais.
Le vrai marché, c'est 22 milliards et la Banque de France, elle a les stats là-dessus.
Et ouais, super. En termes de concurrence aujourd'hui, donc, on a bien vu avec les différents partenaires avec lesquels vous travaillez déjà et avec ceux avec lesquels vous allez travailler demain, il y a personne d'autre aujourd'hui qui est sur un peu ce segment, ce marché, de faciliter comme ça l'accessibilité au non-coté en reliant les différents acteurs. Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce que Itoca a des concurrents?
Aujourd'hui, dans notre écosystème, la plupart de nos relations, de nos partenaires, de notre, je sais pas comment on dit, nos confrères peut-être, ils sont tournés vers les entreprises. Par exemple, BlockPulse à Paris est tourné vers du service aux entreprises. Et donc, l'idée, c'est d'aider l'entreprise à avoir une gestion d'actionnaires plus simple, etc. Et ça, c'est un super service. Nous, on est là pour simplifier la vie de l'investisseur et on est avant tout au service des banques. Donc, ce type de service-là est unique, on n'a pas de concurrent. On pourrait être comparé à d'autres, mais très honnêtement, ce qu'on fait précisément, notre métier, notre relation, le type de contrat qu'on a, la longévité des contrats, notre façon de penser au quotidien avec ces contrats, ça, c'est vraiment unique. Néanmoins, ça nous rend très compatibles avec d'autres parce que peut-être ils ne se sentent pas trop menacés. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien bosser avec des caption market, des BlockPulse, en fait on bosse déjà un peu avec eux, mais développer ces relations, pour nous c'est très important. On ne se sent pas en compétition avec aucun acteur. Si pendant un temps il y en avait quelques-uns qui nous faisaient un peu peur, c'était plus IBM, Sopra Banking, des gros qui sont déjà très au contact des banques, mais finalement notre marché est tellement spécifique, tellement peu connu que personne n'a envie d'être dedans, quoi. Parmi les gros j'entends.
Donc aujourd'hui, ce qui vous laisse un petit peu cet avantage concurrentiel avec ce développement. Utocad, ça a été créé quand? En quelle année?
Donc Utocad, ça a été fondé en 2014. Et on a fondé la société pour encaisser un client qu'on venait d'avoir. À l'origine, on faisait plutôt du conseil technologique. On a fait un premier pivot pour faire notre technologie blockchain interne qu'on a vendue, qui s'appelle Blockchainize. Et puis un deuxième pivot plutôt métier, passer d'une horizontale à une verticale avec Catalyzer en 2017.
Okay, ouais.
Donc c'est vrai que la vraie aventure Scalable, elle a démarré plutôt en 2017.
Ben écoute, déjà mille merci Clément pour tout ça. On a passé une bonne heure ensemble. Merci pour toutes ces explications. Merci également pour ta transparence par rapport à tes différentes horizons d'investissement, tes classes d'actifs, etc. Souhaites-tu voir quelque chose abordé sur Utocad, sur cette levée de fonds d'autres choses que tu souhaiterais aborder, mettre en avant? Pour ma part, je pense qu'on a déjà vu, fait un petit peu le tour. Donc, cette levée de fonds disponible dès maintenant, éligible au PEA-PME, notamment à travers la plateforme WeSeed pour des tickets à partir de 100 euros, sinon en direct à partir de 40-50 000 euros.
Peut-être l'horizon de sortie, à quoi on s'attend en termes de ratio financier? Si du haut de nos 24 millions d'euros.
Je voulais pas t'imposer l'exercice de la boule de cristal, même si tu as des objectifs.
Non, mais je voudrais peut-être se donner une trajectoire, se dire qu'est-ce que ça peut donner. J'ai posé la question à des VC en leur disant, voilà, si une société telle que la mienne devait demain se revendre, qu'est-ce que vous diriez en termes de ratio? Bon. Donc, ils m'ont dit deux choses. Ils m'ont dit, soit tu es arrivé à un stade de maturité, c'est-à-dire que voilà, tu as eu ton marché et basta, il n'y a plus rien à faire, entre guillemets. Dans ce cas-là, on va te chercher 10 fois ton EBITDA, quoi. Mm-hmm. Ouais. Je fais, ah, ok, c'est pas mal. Chez nous, l'EBITDA, je crois que c'est autour de 6-7 millions à l'horizon visé. Bon, 70 millions de valo, pourquoi pas. Par contre, si arrivé aux 24 millions, on a encore des perspectives de croissance relativement importantes, ce qui est de vous à moi fort probable, vous, l'audience, dans ces cas-là, on va plutôt chercher environ 10 fois le chiffre d'affaires. Quand je dis environ 10, ça peut aller de 7 à 20, quoi. Bon. Mm-hmm. Donc, 10 fois le chiffre d'affaires, là, bon, bah là, ça fait plutôt du 240 millions de valo. Donc là, bon, ça commence à être assez épais, quoi. Aujourd'hui, la frange de valo, elle se situe entre 5 et 8, c'est ce qu'on annonce. Certes, le râteau est encore un peu large, mais bon, quand on voit la perspective, bon, je pense que c'est suffisamment intéressant pour venir maintenant. Après, en termes de façon de sortir, bah, on a pensé à plusieurs choses. On se dit que soit on prendra une vraie indépendance un jour et on va aller se coter en bourse, ce qui est envisagé. Soit on va aller chercher une façon de faire qui serait peut-être plus astucieuse ou plus adaptée, type justement utiliser une plateforme de liquidité interne pour pouvoir faire entrer, sortir et fluidifier notre capital, ce qui ne nécessiterait plus d'avoir une urgence ou une importance à rendre une liquidité forte à un moment donné. Ça pourrait baisser ce niveau d'urgence, et dans ce cas-là on ferait une sorte de LBO, OBO pour rendre l'entreprise autonome. Et l'objectif, ce serait que les salariés rentrent au capital et puis prennent possession un peu toute l'entreprise pour pérenniser l'activité dans le temps. Voilà un peu la solution. Puis après, il y a des choses plus rigolotes, mais peut-être moins adaptées, qui seraient des ICO, l'émission de tokens. Vu qu'on a des clients banques, on se dit que ce serait marrant, mais pas forcément adapté. Et les banques n'étant pas forcément très attirées par ces modèles de financement nouveaux.
En effet, de travailler avec les banques, mais au contraire, je pense que vous allez participer à faire à votre niveau, hein, le petit colibri qui fait son travail, mais participer justement à démocratiser un petit peu toutes ces solutions autour de la blockchain, et justement avec des partenaires bancaires qui sont peut-être à l'heure d'aujourd'hui réticents, même si on le voit en discutant un peu avec les uns les autres, ils ont réellement pris conscience du potentiel de la technologie. Après, ils freinent un petit peu d'un point de vue particulier pour donner l'accessibilité à des types d'investissements comme les cryptoactifs, etc. On en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, le fait d'avoir des acteurs comme vous qui travaillent directement à leur contact, ça permet voilà, de faire évoluer les mentalités, en tout cas dans le bon sens. Et c'est intéressant. Donc, différents points. Le fait de vous faire racheter également, tu ne l'as pas évoqué, mais ça peut être un point de sortie également. Même si j'imagine à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas ce qui est en termes d'objectifs, mais on ne sait jamais, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé par omission plus que par volonté. Si un seul acteur bancaire venait à nous racheter, ce serait peut-être légèrement embêtant pour lui et pour nous. Mais néanmoins, il n'est pas impossible que un consortium de quelques banques se positionne pour nous racheter. Ça ferait plutôt sens, à vrai dire. En tout cas, aujourd'hui, dans l'histoire dans laquelle on est, puisque quand même beaucoup de nos clients sont des banques, la principale source de revenus, c'est les banques. Donc, peut-être qu'à un moment donné, elles vont se dire, bon, ben voilà, il faut rentrer un peu plus profondément dans la famille, pourquoi pas. À ce stade, c'est pas forcément une volonté, puisqu'on a encore beaucoup de potentiel à déployer. Je pense que les grands acteurs, certes les banques, mais ont tendance à acheter d'autres acteurs plus petits, matures en fait, qui ont déjà bien prouvé leur marché. Donc là, c'est clairement trop tôt. Et puis, peut-être qu'une fois arrivé à la fin de notre premier marché, on aura une proposition. C'est tout à fait envisageable. Et comme on a vu le type de ratio que ça peut donner avec le compte Nickel, avec BNP, bon, on peut s'attendre à des chiffres un petit peu supérieurs à ce que j'ai dit juste avant. En termes de ratio, par contre, l'histoire sera moins avancée. Ça permettra quand même de s'en sortir avec une plus-value pour les investisseurs actuels qui serait quand même significative.
Tu peux développer un petit peu cette histoire de ratio là, que tu viens d'évoquer là, à l'instant?
Je vous avais mentionné un ratio de 10 fois le chiffre d'affaires. Mmh. Quand on a un rachat industriel, le ratio peut augmenter. La raison est que finalement, l'entreprise qui rachète ne va pas racheter un multiple de chiffre d'affaires, parce que sinon, ça serait dingue d'acheter 40 fois un chiffre d'affaires. Par contre, elle va peut-être se baser sur un autre indicateur, notre base d'utilisateurs, la quantité de connexions qu'on a, voilà, des métriques différentes. Et finalement, quand on remet ça sur le chiffre d'affaires, il se pourrait que le ratio soit bien supérieur. 40, 100, c'est tout à fait possible. C'est pas forcément la cible aujourd'hui, on n'a pas encore d'idée. Mais de ce qu'on a vu en finance, notamment avec Carta X aux États-Unis, qui est valorisé aujourd'hui 8 milliards d'euros pour faire le métier de caption market, les ratios sont absolument dingues. Si on applique les ratios de Carta X à Utocat maintenant, on serait valo 200 millions.
Eh oui, d'accord. Ouais.
Voilà, donc c'est juste pour dire que 200 millions maintenant, comme on va grossir après, ben, c'est complètement fou, quoi.
Ouais, ça laisse présager de bonnes nouvelles pour la suite. Bon, en tout cas, super intéressant. Merci encore une fois, Clément, pour tout ça. Avant de conclure cette émission, puis je te laisserai le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui écoutent jusqu'au bout, comme je les appelle, donc font partie de la Dream Team. Tu as une petite citation. À chaque fois, je demande à mon invité que je reçois s'il a un petit mantra, une petite citation, coup de cœur. Est-ce que tu pourrais nous la partager, nous dire un petit peu pourquoi et en quoi ça te parle pour toi? Est-ce que tu as une petite citation que tu te répètes régulièrement?
Ce qui me définit un peu en tant que fondateur, en tant qu'acheteur de solutions, en tant que partenaire, souvent c'est les idées c'est bien, le résultat c'est mieux. J'aime bien engager mes partenaires au résultat, j'aime bien engager mes salariés au résultat, parce que je trouve que sans résultat dans notre écosystème, finalement on fait tout ça pour rien, quoi. Comme nous en fait on a une grande liberté d'action dans notre entreprise, on peut vraiment s'organiser un peu comme on veut au quotidien en termes d'activité de vie personnelle, mais ce qu'on va regarder c'est les résultats, parce que en fait tout simplement on en a besoin, quoi. Pour que l'histoire progresse, il faut vraiment on est dans une période de développement dans notre entreprise où les résultats c'est important, et on applique les mêmes contraintes à tous nos partenaires. Donc les idées c'est bien, le résultat c'est mieux.
Ben excellent, merci, merci pour ça. En tout cas, merci d'avoir partagé toutes tes idées aujourd'hui sur cette émission. Et je te souhaite et je suis convaincu que tu vas personnellement et puis avec cette aventure entrepreneuriale avec Utocat avoir énormément de beaux résultats. Ben écoute, si tu veux, je te laisse le mot de la fin là pour tous les auditeurs de La Bonne Fortune qui ont écouté jusqu'ici. Encore une fois, mille merci à vous tous, merci à ceux qui prennent le temps de mettre aussi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est intéressant également aussi pour le référencement et pour continuer à faire à partager, à développer cette émission. Écoute Clément, je te laisse le mot de la fin.
Merci Ismaël pour cet excellent moment entre nous. Merci à l'auditoire et à l'audience de nous avoir écoutés jusque-là. Moi, j'ai grand plaisir à partager ma passion. Et puis, je vous souhaite du coup à vous tous de belles aventures.
Super Clément, merci. Puis je remettrai également tous les liens dans les commentaires, dans les notes de cet épisode, donc les liens sur le site internet, les liens pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à la levée, Je m'engage ici, j'en serai sur WeSeed. Et également ton lien LinkedIn, là où on te retrouve le plus facilement également pour celles et ceux qui souhaiteraient te contacter. Voilà. Et puis, n'hésitez pas, nos amis banquiers également, si vous avez des connaissances, nos amis banquiers, etc., pour éventuellement pousser cette merveilleuse solution qui va nous permettre à tous et à toutes de pouvoir profiter et d'investir au sein d'un PEA-PME avec grande facilité et grande rapidité également. Donc n'hésitez pas à partager cet épisode, que ce soit autour de vous et puis à vos amis banquiers également. Merci à tous, ciao ciao, à bientôt.
Merci, ciao.
Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors, si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a deux belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais deux ou trois personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao !